Le point de départ, c'est un projet qu'avait Jean-Luc Godard avec le Centre Pompidou et Dominique Pahini, qui était de riposter espièglement au refus du Collège de France que Godard vienne y faire des cours, en faisant 9 films qui devaient s'appeler Collage de France, en pluriel. Voilà, donc le Frénois, cette école que je dirige dans le nord de la France, qui forme des artistes et des cinéastes, était invité à collaborer à ce film, à le coproduire, en échange de quoi les étudiants auraient eu accès au matériel utilisé par Godard pour faire des propositions de montage, dialoguer avec lui. En fait, voilà, au fil des mois, on s'est rendu compte que Godard ne ferait pas ses films, qu'il n'y aurait pas ces 9 films qui devaient être des regards critiques sur le cinéma, sur l'audiovisuel, sur la situation du monde aujourd'hui, et qu'il dérivait lentement vers d'autres choses. Cette autre chose, ça a été, au bout du compte, cette exposition au Centre Pompidou, qui était diversement évaluée, mais qui, je crois, a été un très très grand moment. Beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui pourraient s'en inspirer, enfin prendre la leçon de ce qu'a été cette exposition. Et donc, il est arrivé un moment où j'ai dit à Jean-Luc Godard, qu'allons-nous faire? On avait fait des visioconférences, justement, Nicole Brenez en avait fait une en dialogue avec lui, c'était tout à fait remarquable. Mais après tout ça, Godard nous avait dit, oui, alors les visioconférences, c'est bien gentil, mais c'est pas mieux que le téléphone. J'ai dit, bon, alors maintenant, puisque vous ne faites plus ces 9 films, on a compris que vous ne les faites plus, donc on ne pourra plus y collaborer, y participer, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, bah, écoutez, c'est très simple, si vous voulez comprendre ce que je fais, comment je travaille, avec quels outils, faites un film sur moi, un documentaire, et venez me filmer comme vous iriez filmer un artiste dans son atelier. J'ai pris ça pour une sorte de boutade, d'abord, une façon de botter en touche, de se défausser, et puis j'ai su qu'il disait à droite et à gauche, oui, Alain ne s'intéresse pas à moi, il s'en fiche, il viendra jamais filmer chez moi. Donc finalement, je l'ai pris au mot et je lui ai dit, d'accord, on va faire ce film. Et je me suis embarqué dans un projet où je n'avais aucune maîtrise de ce qui allait arriver, puisqu'en fait, je ne savais pas ce qu'allait devenir la relation de Godard avec le Centre Pompidou. Nous accompagnons tout ça en même temps avec l'espoir que quelque chose se révèle, enfin que ce film l'aide aussi à penser l'exposition, à penser le projet, en dialogue avec des étudiants qui sont des artistes au Frénois, qui ne sont pas seulement des cinéastes. Et puis voilà, on a accompagné Godard dans ce long processus. Nous l'avons filmé principalement en dialogue avec des interlocuteurs qu'il a choisis lui, et donc abordant toutes sortes de thèmes qui ont été choisis par lui et ses interlocuteurs. Et donc je pense qu'au bout du compte, on a accumulé une somme importante de ce qu'est aujourd'hui la pensée de ce très grand cinéaste qui va avoir 79 ans. Et je crois qu'il ne se présentera plus ce genre de circonstances pour que Godard puisse redire les choses qui sont dites dans ce film.
C'est pourquoi d'ailleurs, Alain Fleischer, vous parlez volontiers de ce film comme d'un document, plutôt comme d'un film d'Alain Fleischer, comme par rapport aux autres films d'Alain Fleischer, parce que, alors, on va en parler de votre place, qui est quand même très intéressante, parce que malgré tout, le montage, c'est pas vous que je vais le dire, est quand même une écriture, et que c'est bien vous qui l'avez fait, ce montage-là, mais vous êtes très en retrait, vous enregistrez quelque chose qui se passe devant la caméra.
Oui, tout à fait. J'ai adopté le parti de ne pas prendre position, de ne pas intervenir. Ce n'est jamais moi qui dialogue avec Godard.
Ça ne devait pas être toujours facile.
C'était pas du tout facile parce que j'étais démangé par le désir d'intervenir, de riposter. Je voyais en plus ça de ce poste qu'est la caméra. Je voyais comment il jouait avec ses interlocuteurs très habilement. C'est un grand stratège, je dirais, d'espace et du temps. Et c'est un grand manipulateur, un grand monteur. De tout cela, il use et abuse d'ailleurs. Mais je me suis cantonné dans cette position de regardeur qui n'a en plus de ça pas été rendu facile par lui-même, puisque après qu'il m'ait invité à faire ce film, que je n'aurais jamais eu l'idée de lui proposer, d'autres personnes d'ailleurs étaient mieux placées que moi pour faire un film sur lui, des gens qui sont plus proches de lui, il a évidemment tout fait pour que ce soit difficile. Car Godard ne supporte pas ou supporte très mal qu'on fasse du cinéma à côté de lui. C'est pourquoi je n'ai pas fait de cinéma. Je l'ai filmé, c'est filmé, mais ce n'est pas un film en quelque sorte. Je l'ai filmé, j'ai accompagné, j'ai suivi comme j'ai pu le fil de ses conversations, de sa pensée, du développement de son projet.
Alors on va entendre un premier extrait avant d'ouvrir la conversation, puisque dans ce film on retrouve le Godard que l'on aime et peut-être aussi le Godard que l'on aime moins, et on va en parler ensemble, celui qu'on aime et qui jongle aussi bien avec les mots que les extraits de film parfois ou avec les concepts, comme dans cette conversation avec les étudiants du Frénois. Il est temps ici en compagnie d'André Labarthe.
Il y a un truc très que, historiquement, d'où viennent les mots, comment ils font, dans chaque langue c'est différent. Il n'y a quasiment pas de dictionnaire où il y a tous les mots employés dans le cinéma, dans chaque langue. Il n'y en a pas un qui est pareil. Hein. En français, pour dire une copie finale avec son optique, on l'appelle copie standard. En anglais, ils l'appellent, en Angleterre, ça s'appelle married print, ce qui est concevable, son et image mélangées. Aux États-Unis, c'est très étrange. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils l'appellent answer print, copie réponse. Réponse de quoi? Qui a posé la question? Je ne sais pas. En allemand, qui sont toujours un peu nuls, ils l'appellent null copie. Et alors, les Italiens, qui sont restés très moussoliniens, ils appellent ça copie campione. Et alors, je me souviens que finlandais, j'étais allé une fois en Finlande, ils avaient un très joli, presque toute une phrase pour dire là, pour dire ce film. Il y avait la lanterne qui écrit la nuit, les jours de brouillard, enfin des trucs comme ça, c'était très... Lorsque l'inventeur du tube de télévision, qui est un juif russe, qui était en Allemagne, qui s'appelle Tsvorkin, il l'a appelé iconoscope. Il venait de Russie, donc icône, et puis scope, puisque tous les appareils de cinéma s'appelaient scope, qui veut dire rapprocher ou élargir en rapprochant comme ça. Et ce mot icône, où est-ce qu'on le retrouve aujourd'hui?
Sur les bureaux d'ordinateur. Dans le langage audiovisuel.
À gauche, sur les ordinateurs. Vous êtes toutes vos petites icônes. Et ne me dites pas que vous êtes absent de la religion. Et quand je vois dans le TGV des gens, je ne vois que des religieux.
On entend le petit rire de Jean-Luc Godard qui s'amuse ici avec ses étudiants. Mais en même temps, cet extrait, on l'a évidemment choisi à dessein parce que ça part comme ça, de cette façon qu'il a, et on était tous comme ça. C'est hilar de jongler avec les mots et en même temps, avec beaucoup d'humour, ça dit effectivement beaucoup de choses. Et en glissant comme ça le propos sur les icônes, il me semble que là, c'est pour moi un des points importants de votre film, je vous livre ma vision de spectateur, Alain Fleischer, c'est de nous montrer à quel point, et on le verra plus tard dans ces dialogues avec les étudiants, à quel point Godard n'est peut-être plus notre contemporain. Et sa difficulté à penser l'aujourd'hui, de parler d'icônes et de dire « je vois dans le TGV que des religieux », c'est une belle phrase, mais vous en pensez quoi, vous, Alain Fleischer, de cette vision du présent?
Tout est comme ça chez lui. On vient d'entendre un exemple absolument parfait de la façon qu'il a de dire des choses qui sont en partie fausses et à travers lesquelles il trouve une vérité. Malgré tout. Hein. Par exemple, quand il dit qu'en allemand, on dit pour null copie, null, ça ne veut pas dire nul en allemand, ça veut dire zéro.
Oui.
Donc copie zéro, ça se dit aussi en français. Campione en italien, ça ne veut pas dire champion, mais échantillon. Donc copie, échantillon. Donc, vous voyez,
oui.
Il manipule tout, il ne veut pas savoir la vérité des choses. Mm. Parfois, il fait des contresens ou des faux sens, mais en même temps, il trouve une vérité à travers tout ça. En ce qui concerne les icônes, l'iconoscope et les icônes qu'il y a sur les côtés des ordinateurs, évidemment qu'il est à côté de la plaque de quelque chose qu'il ne veut pas comprendre. Ce qu'il reproche aux étudiants quand ils commentent ou quand ils critiquent leurs installations, c'est-à-dire des œuvres qui sont destinées à l'espace du musée et non plus au dispositif historique de la salle noire.
Mais c'est bien ce que leur répondent les étudiants, voilà. Lui répondent les étudiants d'ailleurs. Oui.
On parle d'autre chose.
Ouais.
Ce qu'il leur reproche, c'est leur fuite ou leur peur du réel. Pour lui, le réel, c'est absolument le cinéma. Le cinéma narratif, basinien, linéaire, avec un début, une fin, et qu'on regarde dans une salle noire avec un écran devant et un projecteur derrière. Donc tout ce qui n'est pas ça n'est pas le réel. Donc une installation qui utilise les moyens techniques du cinéma, le langage du cinéma, les images filmées, en film ou en vidéo, mais qui s'échappe de ce dispositif, c'est quelque chose qui, de son point de vue, ment, triche, et il n'est pas capable de penser cet au-delà du cinéma.
Sur ces moments de confrontation, alors peut-être Nicole Brenez pour une première intervention, j'imagine que vous avez des pages et des pages de notes, vous avez encore revu le film ce matin, ou disiez-vous avant que nous reprenions l'antenne, mais sur ce rapport comme ça de Godard avec ces jeunes étudiants artistes du Frénois.
Ben c'est passionnant parce que bon, le film est fait de grands blocs de dialogues. Donc la plupart avec des complices ou des collaborateurs, des amis de toujours, la barre Narboni et aussi un journaliste à la fin, Christophe Kantchev. Et ça, c'est le moment, en fait, je dirais, où le dialogue, donc amical et bon, d'une certaine façon familier, devient une vraie confrontation qui se transforme, en fait, très très vite en impasse, parce qu'ils ne parlent pas la même chose, c'est-à-dire ils emploient les mêmes mots, mais pour signifier des choses très différentes. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est un hiatus historique, en fait, qui est absolument révélateur, passionnant. C'est un vrai symptôme, c'est un vrai moment dans l'histoire des formes qui est très décevant, d'une certaine façon, mais qu'importe, enfin, mais qui est, du coup, très précieux.
Oui, parce qu'on touche ici
des choses. On voit deux générations qui ne pensent pas de la même façon, du tout.
Antoine Guillot ?
Mais même au-delà de générations, moi, je trouve que le sentiment profond qu'on a de ce film, c'est l'immense solitude qu'il y a autour de Godard et dont on a presque l'impression qu'il l'organise lui-même tout en cherchant à la briser. C'est-à-dire que, hormis sans doute Jean Narboni, qui est le seul à réellement dialoguer avec lui, on a l'impression que le film...
C'est-à-dire à essayer de lui répondre.
Oui, mais réellement, c'est-à-dire avoir une vraie confrontation. Et là, sur le même terrain qui est celui de la dialectique, par exemple, on a l'impression que pour la plupart des autres, le mot conversation est très exagéré parce que c'est très souvent du monologue de Godard et on a l'impression qu'il va, avec ses jeux sur les mots, sur les concepts, essayer de sortir parfois des énormités encore plus énormes simplement pour provoquer quelque chose chez la personne à qui il s'adresse et de ne pas avoir ce rapport de vénération et parfois on pourrait presque dire de courtisanerie envers Godard. Et j'imagine que c'est très tétanisant de discuter avec Godard, on a fait des émissions avec lui, c'est assez compliqué et en même temps on a l'impression qu'il recherche ça, cette confrontation, et qu'il a envie que Narboni à un moment lui dise non, franchement, ton raccord Adolf Hitler-Golda Meir, c'est pas possible.
Alors c'est tout à fait vrai, Godard cherche toujours à être le plus fort, mais selon une règle du jeu que lui seul a déterminée. Alors, évidemment, à ce jeu-là, il gagne toujours. Mais en même temps, il reste seul, parce que la règle du jeu, il ne la partage qu'avec lui-même. Alors, il arrive à faire illusion, il triche, il esquive, il est d'une extrême habileté, il manipule les citations d'une façon vertigineuse. Mais oui, il s'enferme dans sa propre solitude. D'ailleurs, elle est réelle, physique, il vit... Il vit mal, je dirais, entre guillemets, dans cette ville de Rolle, qui est assez sinistre, au bord du lac Léman, avec un salon de thé où il a ses habitudes, mais qui n'est fréquenté que par des vieilles dames. Enfin, tout ça n'est pas très joyeux. Et puis, par ailleurs, il s'identifie, ça c'est évident, à la figure pathétique de l'artiste malheureux, incompris.
Connu mais pas reconnu, dit-il.
Connu
dans
mais
le
pas
film,
reconnu. Hein. Et d'ailleurs, au-delà même de la figure de l'artiste.
Encore une mauvaise foi totale.
Tout à fait, absolument. Ah oui, absolument. Il s'identifie aussi à cette figure du mathématicien qui lui tire des larmes. D'ailleurs, c'est un moment très bouleversant, je trouve, dans le film. Il s'identifie à ces figures malheureuses d'artistes ou de penseurs qui ne sont pas compris.
Nicole Brenez ?
Alors d'abord, je trouve que. Les blocs comme ça sont extraordinairement éloquents en eux-mêmes, parce que justement, on voit, enfin, ce qu'on voit, c'est tout le temps de la pensée au travail, que ce soit par des mots ou par des relations d'images. Et du coup, on voit, au contraire de ce qui se passe dans les films d'habitude, des différences de régime, ce qui est extrêmement intéressant. Enfin, vraiment des tours, des détours, ou bien au contraire des courts-circuits, ou des voies rapides, ou au contraire des replis rhizomatiques invraisemblables. Enfin, voilà, on voit des différences dans les régimes spéculatifs et ça, dans les voies pour faire émerger une idée, une proposition. Ça, c'est absolument passionnant en soi. Et ensuite, quand même, il y a une chose qui me semble traverser cet ensemble d'intensité différentielle. C'est quand même une politique de l'amitié extraordinaire, parce que bon, d'abord, il y a ce moment bouleversant, effectivement, où il dit à propos de ces mathématiciens maudits, c'était mes amis. Donc voilà, quelqu'un de complètement hanté par... Et puis, chaque fois, enfin, il y a une exigence d'amitié, dans un sens évidemment non usuel, qui se fait jour. Et un des très très beaux moments, c'est au contraire au début, je pense que vous les avez montés comme ça aussi un peu en diptyque, à l'orée du film, où on voit Jean-Marie Straume rendre un hommage bouleversant à Godard, à Godard qui se bat contre Hollywood, sans jamais le nommer. Et c'est un moment, je trouve, d'élégance éthique exceptionnel aussi.
Alain Fléchère ?
Évidemment, je suis très touché de ce que vient de dire Nicole Brenez, mais je pense qu'effectivement, ça se passe comme ça. Ce moment est effectivement très beau. Jean-Marie Straub, avec ses allures de grand ours dans une cage qui fait les 100 pas, dit des choses d'une grande beauté à Godard, qui est presque un peu sceptique, assis au troisième rang, un peu goguenard, comme ça. Il y a aussi Daniel Huillet, qui était encore là, qui regarde Jean-Marie avec une très grande intensité. Il se passe beaucoup de choses, d'ailleurs, au cours de cette rencontre. C'est aussi là que Godard, en réponse à des choses que vient de lui dire Jean-Marie Straub, dit « Chez un couple qui n'aime pas les mêmes films, ça ne peut pas durer. »
On peut ne pas aimer les mêmes livres.
Voilà, on peut aimer Beethoven l'un et puis les matchs de foot l'autre. Ça passe, on peut vivre 20 ans comme ça, mais si on n'aime pas les mêmes films, ça ne peut pas durer. C'est au cours de cet entretien avec Jean-Marie et Daniel Huillet que ça se passe. En ce qui concerne le montage et cette question très importante de la façon dont il monte ses propos, je crois qu'il est imbattable dans le montage des images et que là, il est dans le vrai. Il dit des choses avec une force incroyable. C'est quand ça devient des mots qu'il triche. Il pense juste en images, je ne suis pas sûr qu'il pense juste avec les mots.
Alors, en images, peut-être un autre extrait pour donner à entendre aussi ce goût de la provocation quand même de Jean-Luc Godard. On va l'entendre ici, cette espèce de rugosité, de raideur, parfois chez lui. C'est effectivement la dernière séquence du film où il est en balade dans la non-exposition au centre Georges Pompidou. Il est avec Christophe Kantchev et il déambule, Jean-Luc Godard.
Là, il y a encore du cinéma, il regarde que d'un œil. Là, elle regarde avec les deux yeux. Elle n'a plus d'image, elle ne sait pas ce qu'elle regarde. Elle en voit une comme ça. Là, il est forcé de faire le point parce qu'il n'a qu'un œil. Non pas qu'il est un cyclope ou comme ça, mais il a en principe un œil, une vision, un point de vue, une espérance ou comme ça. Là, elle n'a rien du tout. C'est Sony. Il regarde avec les deux yeux. Vous ne pouvez plus faire une image telle que vous souhaitez la faire, le cinéma, avec les deux yeux. Vous avez besoin de lacunes. Comme le peintre, il fait ça, le peintre. Vous n'avez jamais vu un peintre faire ça quand il recule du tableau. Il n'a qu'un pinceau. Les plus grands peintres n'ont jamais peint avec deux pinceaux. Elle peint avec deux pinceaux. Deux pinceaux lumineux de rétine ou je ne sais pas quoi.
Et on peut avoir un usage intelligent des nouvelles technologies ?
Eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas. 1, 2, 3% de l'histoire de la bombe atomique est là. Ils sont tous contre les Iraniens qui veulent. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir leur bombe ? Ils se lanceront des bombes sur les autres. Eh bien, très bien. Qu'est-ce qui les gêne ?
Je suis entièrement d'accord avec vous, là.
Non, mais c'est... Je rêve, comme on dit.
C'est bête.
Mais qu'est-ce que...
On est tous les deux d'accord.
Ben voilà.
Oui, il a invectivé alors cette jeune fille, j'aurais dû le dire avant, qui tient un caméscope et qui est en train d'essayer de filmer Jean-Luc Godard en se promenant, tandis que voilà, l'opérateur...
Elle regarde un écran. Elle regarde un petit écran déplié sur le côté, donc elle n'a pas l'œil collé au viseur.
Voilà. Il aurait fallu que je donne cette explication avant, mais voilà, on a entendu la façon dont il se parle à cette jeune fille qui est là, quoi. Enfin, ce qui est quand même assez violent pour elle, sans doute. Et puis cette fin, il n'y a pas de bon usage possible des nouvelles technologies, il faut donner la bombe aux Iraniens. Enfin, voilà, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Comment être contre Godard ? Non, mais ce n'est pas contre montage, Christophe Kantchev, qui est là, comme Dominique Paigny, sachant plus quoi dire, disant ce plan de ce tortionnaire algérien, on dirait du Dreyer, tout ça, parce que tout d'un coup, c'est Godard qui choisit de le montrer. Enfin, il y a quand même une façon de passer une pommade très, 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 très dure à voir parfois pour nous, spectateurs. C'est un drôle de chose. Et pour vous qui avez filmé ces séquences-là, un rapport étrange au maître, quoi.
Oui, c'était assez dur de découvrir ça, que j'étais en train de filmer. Et ça a été encore plus dur au montage, avec cette question de est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on ne garde pas. En fait, on a gardé un peu, mais on en a coupé encore. C'est-à-dire que c'est encore pire que ce qu'on entend dans l'extrait que vous avez fait écouter aux auditeurs. Ça va plus loin. Ça va souvent plus loin avec Godard. Il y a un moment où on a envie de lui épargner ces sortes de, d'excès, de faux pas. Et voilà. En ce qui concerne les nouvelles technologies, juste un petit mot. C'est vrai qu'il les critique, il dit qu'on ne peut rien en tirer de bon. En même temps, il dit des choses très, très jolies et très amusantes sur l'évolution du métier à travers les changements de gestes qu'entraînent les nouvelles machines. Il dit, à une époque, mon métier, ça consistait à me hisser sur la pointe des pieds pour atteindre le viseur de la caméra et y coller mon œil. Maintenant, ça consiste à être à quatre pattes par terre, le cul en l'air, à essayer de faire des branchements. Et à travers ce changement d'ergonomie, je dirais, il dit comment le cinéma change.
Antoine Guillaume.
Est-ce que Godard a vu votre film? Est-ce que vous avez eu directement par lui ou par les voies détournées qui sont abordées d'ailleurs aussi dans ce film? Comment on se dit des choses en les faisant passer par des amis, sa réaction?
Alors très honnêtement, il a appris que le film était sélectionné pour le festival de Locarno, alors que j'avais montré au festival une copie inachevée, pas mixée, raison pour laquelle je ne l'avais pas montré à lui. Donc il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je vais interdire ce film. Il a voulu l'interdire. Je me suis dit, ça serait très amusant que Godard interdise un film. Donc je lui ai dit, attendez de voir le film. Dès qu'il est mixé, je vous l'envoie. Je lui ai envoyé. À partir de ce moment-là, on n'a plus entendu parler de lui ni du film. Je sais qu'il dit qu'on n'a pas respecté nos engagements, qu'on a montré des choses qu'on ne devait pas montrer. Enfin, tout ça est d'ailleurs assez faux. Il y a des contrats. Et je pense que le film est tout à son avantage, malgré tout. C'est une... Bon, il s'y montre sous des jours d'hiver. Mais en tout cas, c'est une somme, sans doute, qu'il n'aura...
Document. Pas... Assurément.
Ouais, c'est un document.
Assurément.
Qu'il n'aura pas l'occasion de refaire, de redire, car les circonstances ne s'y prêteront plus. Il y a eu cette relation qu'il a eue avec le Frénois, avec nos étudiants. Il ne sera plus jamais confronté à des jeunes gens qui font ce genre de travail, des jeunes artistes. Et puis, il y a eu son exposition au Centre Pompidou, qui était un moment quand même très important dans sa carrière. La première fois qu'il s'exposait comme artiste. C'est-à-dire qu'il montrait du cinéma ailleurs que dans une salle de cinéma.
Nicole Brenez.
Oh là, il y a plein de choses.
Ouais, oui, il y a plein de choses.
J'ai trois choses très rapidement. Bon, donc la première, c'est que... sur l'idée qu'il n'y a pas de bon usage des
nouvelles technologies. Oui.
Bon, en fait, ça vient d'une réflexion constante chez Godard, qui me semble quand même profondément juste, et qui se résume par cette formule absolument géniale qui inspire beaucoup de jeunes cinéastes aujourd'hui, c'est quand il disait à propos de Mathieu Kassovitz, c'est pas Mathieu qui fait le film, c'est Sony. C'est-à-dire qu'il faut jamais qu'un... Enfin, plutôt, il faut, c'est pas dogmatique ni prescriptif, mais un vrai cinéaste, un vrai artiste, pour aller vite, c'est quelqu'un qui jamais ne sera... ne sera là pour, en quelque sorte, tirer parti des derniers instruments légués par l'industrie. Voilà, c'est autre chose. Bon, donc, je le dis vite, mais...
je dirais une petite chose aussi.
Alors, non, mais allez-y tout de suite.
Juste une petite chose. Bien sûr. Par ailleurs, Godard est un technophile.
Bien sûr.
Ouais. Il était extrêmement attentif.
On voit chez lui ce que Absolument. Vous montrez de son parc technologique.
Absolument. Non, mais c'est un technicien
Il était très attentif à l'évolution des caméras.
Mais justement. Ah,
c'est à Boviana, même qu'il a commandé vidéo, des caméras portables, la paluche, tout ça, l'a passionné toujours.
Son travail vidéo, dès les années 70, en atteste au combien. Nicole Brenez.
Technophile, c'est exactement ça. Alors, la deuxième chose, c'est que, bon, pourquoi c'est si important, un morceau de conversation avec Jean-Luc Godard? C'est parce que je pense qu'il y a plein de films sans nécessité, aucune. Donc, l'homme et son chien, tout ça, là. Mais là, il y a un vrai... Enfin, il y a quelque chose qui est profondément nécessaire. C'est de voir un expert d'image, aujourd'hui, comme Godard, trier, en fait. Trier dans les images, donc savoir pourquoi on choisit une image et pas une autre, comment on l'enchaîne avec d'autres, ou pas, ou comment on la lit ou on la délie. Et justement, j'y pensais en écoutant Antoine à l'instant, justement, il y a un moment absolument magnifique, c'est quand il est allé trier dans l'océan des images et choisir ce plan extraordinaire du tortionnaire algérien qui avoue ce qu'il a commis, enfin, et qui en pleure. Alors, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec Antoine, parce que d'abord, quand Dominique Paigny le dit...
C'est moi qui en ai parlé. Hein,
Non, mais c'est vrai que tout à coup, ça ressemble à du Dreyer, qu'on voit cet homme barbu qui ressemble à un personnage d'Ordette et qui pleure. Ben, aussi, ça marche. Mais de façon beaucoup plus importante encore, ce plan-là, qui vient d'un modeste documentaire de télévision qui a joué son rôle, populaire, c'est quand même... Soudain, enfin, la façon dont Godard s'en empare, ça le replace dans une histoire des images nécessaires, au sens où, par exemple... Cette image-là, Marcel Hanoun l'avait mis en scène sur un mode complètement imaginaire, fantasmatique, donc très formaliste, dans l'Authentique procès de Carl Emanuel Jung, qui était une sorte de remise en scène du procès Eichmann. et où il avait inventé ce moment, mais alors qui était vraiment mis... c'était un plan optatif. Enfin, il inventait justement un raccord optatif. Enfin, voilà, inventer une image qui n'est pas possible dans le réel. Donc, sur un mode du souhait. Et où on voyait donc Jung, Eichmann, en train de hurler et de demander pardon. Donc, ce qui était une chose impossible. Et cette chose impossible, donc Godard la trouve, enfin la réattrape dans un endroit bon improbable, la télévision publique française, voilà.
Que lui il a vu
et il sait quoi en faire. Il sait quoi en faire. Donc il l'a réinscrit dans une histoire des images du XXe siècle, donc ce qui était le but de Vrai Faux Passeport. Et toute dernière chose, le film là de Alain Fleischer, c'est important aussi parce que c'est un making of d'un des plus beaux films de Godard qui est le plus invisible à l'heure actuelle et qui serait bon d'éditer aussi, qui est le film qui s'appelle Reportage amateur maquette, et qui est un film fait par Godard et Anne-Marie Miéville en train d'élaborer et de commenter les maquettes de collages de France. Et on voit vraiment Godard au travail, comme on le voit très rarement, sauf ici, justement. Et aussi dans un très beau reportage qui s'appelait... je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, mais qui était fait par Cinéma il y a quelques années, où c'était la genèse même des histoires du cinéma, ouais. Et qui fait vraiment triptyque du coup avec ces trois films. Et on voit Godard et Miéville, enfin on voit Godard en train d'inventer des idées de rapport entre les objets, les phénomènes et l'histoire avec un grand H. Et c'est éblouissant, 47 minutes de pensée pure. Quoi.
Voilà, quelques bonnes raisons. Alain Fleischer, un petit commentaire sur ce que vient de dire Nicole Brenez.
Non, je suis d'accord, on voit Godard au travail... d'une façon totalement extraordinaire. On voit à quel point il expérimente, il bricole aussi. Hein. Quand il est chez lui, on le voit, c'est un moment qui me semble très, très émouvant, où il manipule des petits fils de fer, il manipule un petit moulin, il essaye de reconstruire une machine de la préhistoire du cinéma. Il bricole, il aime bricoler tout seul.
Ouais.
Et... ça, oui,
les ciseaux, de la colle, que ce soit sur la table de montage. Absolument, avec des petites maquettes, oui. Ça fait partie des choses que l'on voit. Il y a ces conversations, mais il y a effectivement un homme au travail, une pensée au travail. Alors dans sa complexité, et ça grâce vous soit rendu à la Fleischer, parce que voilà, on n'est pas là pour ériger un monument à la gloire d'eux, on est là pour voir un créateur dans sa complexité.